Oblique. Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, Oblique poursuit son aventure avec aujourd'hui un programme très varié, hein, puisque la semaine dernière c'était un peu sous le signe du fantastique. Là, on n'a pas réussi à dégager de thème. Alors, bonjour Justine, Yann, Victor.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Alors, de quoi allez-vous parler ?
Moi, personnellement, je viens en qualité d'ambassadeur. Je ne suis pas là, je suis juste donc là pour représenter l'inestimable reporter Loan Musco, qui a essayé de se cacher derrière mon nom, et qui nous a gentiment offert un très bel enregistrement du mixeur son pour le cinéma Cyril Hoth, un monsieur avec une carrière impressionnante qu'on va donc découvrir après. Enfin, peut vous faire une deuxième dose d'audioblique dans l'émission, donc finalement, le thème, c'est peut-être le son.
Ben voilà, il y a un thème. Voilà.
Voilà,
et toi, donc, Yann ?
L'audioblique, ce sera sur le film de Roman Polanski, Rosemary Baby.
Et en ce qui me concerne, je parlerai donc de deux films de très différents. Hein. Sunless Shadows, un documentaire qui donc, va être diffusé à Utopia le lundi 7 mars à 20h, en présence de son réalisateur, normalement.
Oui, c'est bon.
Voilà, parce que c'était sous réserve, alors je ne sais pas si je l'annonçais ou non. Et puis, le formidable Exécution de Romolo Guerrieri, une nouvelle livraison à ne pas manquer, en DVD Blu-ray de nos amis Artus. Et donc, je laisse la parole donc à Justine. Pour la revue de presse.
No one knew better than McCain that they'd get him all the same and they made him pay the price.
Bonjour tout le monde. Si avec le retour des beaux jours, vous vous sentez envahi par l'envie de sortir de votre hibernation, je vous ai concocté un petit programme des événements de la semaine à ne pas manquer. Déjà, si vous avez encore jusqu'au 8 mars pour profiter au cinéma Utopia de la fin du cycle autour des films de Roberto Gavaldon. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir l'univers de celui qu'on appelle le roi du mélodrame mexicain avec les projections des films La déesse agenouillée mais aussi La nuit avance. Le dimanche 6 mars à 17h30, la Carmagnole projettera le film documentaire La Commedia dell'Artiste, réalisé par Amit Bellica et Gérard Gall, qui sera suivi d'un débat en présence de la compagnie Pepi Morena. Ce film, alternant images de spectacle et témoignages d'artistes sur les conditions d'exercice de leur métier, pose la question de la place de la culture dans notre société et celle du statut d'intermittent en France. Lundi 7 mars à 18h, le cinéma Le Sémaphore de Nîmes nous proposera une séance unique du film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Cette projection aura lieu dans le cadre de l'exposition Portraits et secrets de femmes romaines, impératrices, matrones et affranchies au Musée de la Romanité à Nîmes. Le film sera suivi d'un débat sur la place de la femme artiste peintre, animé par Pascal Trarieux, conservateur du Musée des Beaux-Arts de Nîmes. Le mercredi 9 mars à 18h, c'est la médiathèque Émile Zola qui projettera un film documentaire sur l'artiste Alexander Calder, intitulé « Calder, sculpteur de l'air » de François Lévy-Kuentz. Dans un film à la première personne, Alexander Calder se met en scène, raconte sa vie et explique son travail ainsi que son évolution. Des figurines de cirque aux stabiles en passant par les portraits et les mobiles, ce documentaire est un véritable spectacle en mouvement. Et enfin, jeudi 10 mars, rendez-vous au Gaumont Multiplex pour une séance spéciale V for Vendetta de James McTague avec la présence exceptionnelle de David Lloyd, co-créateur et dessinateur du comic book. Au programme de cette soirée, de 17h à 20h, une séance dédicace avec David Lloyd au bar à vin du cinéma. À 20h, la projection du film V for Vendetta et enfin, un débat avec David Lloyd après la séance. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et vous laisse avec Manu pour la suite de l'émission.
Donc je vais vous parler de Sunless Shadows, hein, qui donc passe, je le répète, à Utopia, puisque c'est une séance unique, le lundi 7 mars à 20h, en présence de son réalisateur, Merdad Oskouaï, Je ne sais pas si je prononce bien, mais a priori, ça doit être ça. Alors, dans un centre de détention en Iran pour jeunes filles, un groupe d'adolescentes purge une peine pour des meurtres de membres de leur famille, père, mari ou autre, que des hommes évidemment, dans un pays où la parole de la femme est bafouée, où sa position sociale ne lui permet pas d'être égale des figures masculines. Alors, photographe de formation, le réalisateur est allé à la rencontre de ces détenus, poursuivant son travail entamé dans son film précédent « Des rêves sans étoiles » en 2016. Il laisse la parole à ces très jeunes femmes, hein, toutes mineures, avec qui il parvient à créer un climat de confiance. Il observe, sans intervenir, les conversations entre ces petits bouts de femmes pleines d'idées pertinentes, tour à tour émancipatrices et conservatrices, mettant en lumière des contradictions passionnantes. Alors discrètement, il pose parfois des questions, les amenant à se livrer et à réfléchir sur les raisons et conséquences de leurs actes. Alors un paradoxe s'installe, hein, dans ce centre fermé, puisque c'est peut-être ce qui est le plus intéressant, hein, qui n'a rien vraiment d'anxiogène et de violent, alors comme si le lieu les protégeait de l'extérieur. Alors ces jeunes iraniennes, hein, qui ont assassiné des hommes, souvent avec l'aide de leur mère dans certains cas, sont davantage en sécurité dans cette prison, un espace où finalement la parole circule. Le réalisateur noue un dialogue juste avec elle, hein, solidaire, pourrait-on avancer, avec ces criminels dont il essaie de comprendre le geste et les motivations. Alors évidemment, le propos est édifiant, mais jamais appuyé, sous-tendu par cette idée que la liberté n'est pas toujours là où elle semble être. Alors le réalisateur pointe aussi l'angoisse de l'après, lorsque ces iraniennes seront dehors, à nouveau confrontées à une réalité qu'elles contestent sous différentes formes, avec plus ou moins de virulence. Alors, et le cinéma dans tout ça, puisque il y en a quand même, hein, a-t-il sa place ? Suffit-il juste, hein, finalement, d'enregistrer le réel pour réussir un documentaire ? Non, bien sûr. Mais Sunless Shadows s'avère soigné, privilégiant une sobriété visuelle, un montage apaisé, agençant brillamment les diverses situations sous une belle lumière. En fait, il s'agit d'un beau film, hein, toujours attentif à sa forme, sans jamais l'exhiber. Merdad Oskouay, hein, saisit des bribes d'espoir, des moments de vie dans les regards des prisonnières devenues des meurtrières à cause de l'oppression d'un système. Alors, je le redis encore une fois, ne le ratez pas parce que c'est un film assez étonnant, hein, et qui passe donc le lundi 7 mars à Utopia à 20h.
No one knew better than McCain that they'd get him all the same, and they made him pay the price.
Et on laisse la parole donc à Victor pour Paul va au cinéma.
Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est bah du coup l'ensemble des reportages qu'on a enregistré, enfin que Loan Musco encore une fois a enregistré pour nous au cinéma. Ah, Paul va au cinéma, donc globalement à l'université Paul Valéry. Et donc le premier enregistrement qu'on a choisi, c'est un mixeur son, donc un métier dont on parle peut-être moins que les réalisateurs, donc ça nous a semblé intéressant. Donc Cyril Hoth, qui a quand même remporté à 3 reprises le César du meilleur son et que vous avez pu récemment, dont vous avez pu récemment entendre le travail en fait dans des films aussi différents que Benedetta, Le Dain, Mandibule, plus ancien Irréversible ou Le Pacte des Loups, mais également des comédies comme les comédies de James Huth ou même les films de Johan Sfar. Vous allez entendre, donc du coup là il s'exprime à la suite d'une projection du film Sur mes lèvres, parce qu'il a beaucoup travaillé avec Jacques Audiard. Il a également collaboré sur De battre mon cœur s'est arrêté, Dipane et Les frères Sisters. Avant de laisser la parole donc à Cyril Hoth, juste restituer un petit peu ce que c'est que le métier de mixeur son. C'est vraiment la dernière étape dans la création sonore du film. Généralement le mixeur il collabore étroitement avec le réalisateur, puisque donc du coup ensemble ils vont récupérer tout l'ensemble des éléments sonores, que ce soit les effets, les bruits, les bruitages, les ambiances, les musiques et les dialogues. Et ensemble, ils vont devoir donc synchroniser, ce qui ne l'est pas déjà, créer un équilibre entre toutes ces bandes et également aussi, encore plus passionnant, spatialiser le son, particulièrement quand les sons appartiennent au hors-champ. Donc c'est évidemment un membre très important de l'équipe d'un film, même s'il n'est jamais sur le plateau de tournage. Donc, extrait de cette rencontre à Paul va au cinéma avec Cyril Hoth.
Je me souviens, dans le film, il y a un moment, donc, ils sont dans la cafette, on va dire, et il y a des sons très forts autour d'elle, qui sont aussi anxiogènes, voire plus que le silence. Comment on fait ses choix et voilà, toi tu choisis surtout la puissance, c'est ça? Et comment t'as fait ces choix à l'époque, je sais pas si tu te souviens.
Je me souviens pas particulièrement, mais si je sais comment on les fait. Enfin, il y a beaucoup c'est très empirique, hein, comme travail. Donc, c'est ça qui est génial aussi sur ce film, c'est qu'on peut toujours tout remettre en question. Il y a des choix qui ont été faits au moment du mixage, qui n'étaient pas forcément prévus tel quel. Mais ce qui est important dans un film, dans la vie, dans tout, c'est la diversité. C'est que des moments forts succèdent à des moments très doux, qu'il y ait de l'âpreté et de la douceur, et c'est ces antagonismes qui sont intéressants. Et dans le film, c'est encore plus marqué parce que c'est le mélange de sa façon à elle d'appréhender ce qui l'entoure, parce qu'elle est malentendante, donc elle a une certaine acuité sur des sens, elle sait dire sur les lèvres, et par ailleurs elle a une déficience d'audition. Donc un film, pour moi, et surtout quand on travaille sur un film comme ça, c'est une question de perspective. Et ce qui est intéressant, c'est l'alternance des perspectives, et donc des choix ont été faits en fonction parfois de choses qui avaient été prévues au départ et qui sont même signalées dans le scénario, et parfois des choses qu'on a décidées parce que on les sentait comme ça, ou que à ce moment-là c'était bienvenu, ou que spontanément on a trouvé que c'était souvent d'ailleurs il y a un accord sur les... Il y a des choses qui se produisent, des petits moments magiques où tout d'un coup on a une idée, on a une intuition, on fait quelque chose et tout d'un coup on se dit « Ah mais ouais, non, mais c'est ça qu'il faut faire. »
Comment tu joues sur ce rythme, on va dire, de bruit? L'importance des bruits, on va dire.
Je me contente d'essayer d'être sensible, en fait. Ouais. De savoir me laisser faire au bon moment. Et, alors évidemment, on voit le film plusieurs fois avant d'arriver en mixage. Donc on se fait une idée déjà d'un ensemble, c'est-à-dire de ce qu'on veut exprimer, de la progression des personnages, de l'histoire, et évidemment et le travail de montage, mais du film en lui-même. Et là, c'est quand même une énorme piste, c'est presque une autoroute, oui, parfois. On n'arrive pas, et c'est ça qui est génial dans le mixage et qui, moi, me convient très bien, on arrive sur quelque chose qui m'emmène. Donc et moi, mon travail, c'est presque, je dirais, c'est presque facile, dans le sens où j'ai l'impression que parfois il suffit que je me laisse faire, ou que je sois sensible à quelque chose dans la façon de filmer, surtout dans un film comme celui-là et avec Jacques en général. C'est ça qui est génial, c'est que on peut laisser libre cours à ça. Il y a évidemment des exigences et des contraintes qui sont systématiques sur les films, des critères d'intelligibilité, on pourrait en reparler, des critères de confort d'écoute, des critères de mise en avant de certains sons pour susciter des émotions, parce que ça fait partie d'une grammaire, entre guillemets, de cinéma, etc. Donc, mais au-delà de ça, il y a d'autres choses qui sont complètement libres et laissées en friche jusqu'à ce moment-là, et où on peut décider de... Et donc, qui sont trouvées sur l'instant. Le cinéma, c'est une succession d'instants et qu'il faut capter. Et moi, c'est ça que j'adore faire, c'est capter un moment et de me dire « Ouais, ben là, j'ai envie de faire ça, j'essaye. » Et puis, soit ça marche, soit ça marche pas, soit ça plaît, soit ça plaît pas. Et après, voilà, on commente, mais...
J'avais une dernière question aussi, c'est ton rapport à l'image, dans le sens où, quand tu fais ton mixage son, est-ce que tu fermes les yeux en te disant, voilà, tu te concentres vraiment sur ce que tu écoutes, ou au contraire, tu te fais référence à l'image en te disant, j'ai pas envie de donner trop d'importance au son, peut-être, ou... Est-ce que tu peux, on va dire, faire ton mixage en fermant les yeux? Est-ce que t'as...
Jamais.
Jamais? C'est non. Pas possible du tout.
Non, enfin, moi, je considère que c'est absolument pas bien. Parce que c'est un ensemble, un film. C'est de l'image et du son, et une histoire, et c'est l'ensemble de ces sensations qui fait un film. Donc, je vais pas fermer les yeux. Après, par exemple, dans le cadre de... Pour un malentendant, par exemple... c'est autre chose, il va y avoir des sous-titres, etc., et sa lecture, entre guillemets, du film va forcément être différente et va peut-être parfois créer d'autres impressions et d'autres sens qui vont être très intéressants. Mais moi, en tout cas, déjà, si on ferme les yeux, on n'entend pas de la même façon, évidemment. Donc le rapport à l'image va changer. Donc c'est par exemple, ne serait-ce que quand je vois des gens qui veulent faire ce métier ou qui sont des étudiants, etc., quand je les vois en mixage et que je les vois fermer les yeux, je leur conseille de surtout pas faire ça, parce que ils sont plus dans le vrai, ils sont plus dans ce que le film raconte. Le film se sert de l'image, donc nous aussi on doit se servir de l'image tout le temps.
Merci Victor, et on passe au cinéma de genre italien avec Exécution. Deux polars assez différents et réalisés après de 10 ans d'intervalle sortent chez Artus dans des copies splendides en combo Blu-ray DVD avec des bonus de l'ami Kurt Riedel, auteur de bande dessinée et résident pas très loin d'ici puisque c'est à Bouzig. Voilà, le premier, Ultime Violence, qui porte assez bien son titre, hein, se rapproche par moments du Rap and Revenge, à la fois racoleur et bien jouissif, porté par Helmut Berger, assez fascinant. Alors il s'agit d'une histoire de kidnapping particulièrement vicieuse, raccord avec le climat des années de plomb qui régnait en Italie dans les années 70. Le vétéran Sergio Greco, dont il s'agit du dernier film, terminait alors en beauté une carrière avec un polar ultra efficace, érotique et violent, alors à ne pas mettre sous tous les yeux. Mais tout de suite, je vais parler vraiment de la meilleure livraison des deux, le très bon polar Exécution, plongée trouble au cœur de l'Italie de la fin des années 60. Dans l'ombre de ce formidable film se cache l'un des artisans les plus mésestimés du cinéma italien, Romolo Guerrieri, à qui l'on doit un excellent giallo de Machination, l'adorable corps de Deborah, et un très grand poliziesco, qui veut dire polar italien, hein, la police au service du citoyen. Alors avec Exécution, hein, titre un peu idiot, Guerrieri prend pour modèle les films noirs des années 40, rejoint habilement les conventions du genre entre intrigues tortueuses, femmes fatales et ambiance trouble. Alors pour faire court, disons que le film met en scène l'inspecteur Belli, engagé par le célèbre avocat Fontana. Ce dernier le mandate de faire expulser une call girl dont son fils Mino est tombé amoureux et d'enquêter sur un certain Romanis, le directeur d'une maison de disques, qui avait promis un poste important à Mino. Alors il trouve ce dernier assassiné de 2 balles de revolver. Alors baignant dans une atmosphère crapuleuse de corruption et de faux-semblants, ce thriller sombre est un brillant pastiche d'un genre peu courant en Italie. C'est-à-dire que dans le cinéma bis populaire, on verra très peu de films noirs à la Bogart en gros. Hein. Alors ça, injectant néanmoins une pincée de violence et d'érotisme. Hein. Le casting impeccable est dominé par Franco Nero, impérial, taciturne et monolithique, qui reprendra d'ailleurs à plusieurs reprises le rôle de l'inspecteur Belli, flic plus proche du détective solitaire que de l'habituel redresseur de tort travaillant pour les forces de l'ordre. Alors ces deux films sont dispo donc sur le site de Artus Film et je vous les recommande vivement.
Voilà, après les mixeurs de son et les atmosphères troubles, c'est au tour du son dans les atmosphères troubles avec le son, la musique de Rosemary's Baby de Roman Polanski. Voici aujourd'hui un autre film autour du thème de la sorcellerie par un autre cinéaste polonais, l'un des plus connus, pour l'un de ses chefs-d'œuvre. Je veux parler bien sûr de l'adaptation du roman d'Aira Levin, Un bébé pour Rosemary. La musique du film, dont on vient d'entendre un extrait, la fameuse berceuse du générique, où la douce voix chantée de l'actrice Mia Farrow elle-même accompagne l'apparition des cartons du générique, des cartons en jolies lettres toutes roses et toutes arrondies, qui font davantage penser à l'annonce d'une romance sentimentale que d'une histoire de diable. On reconnaît là une ironie typique du cinéaste. Eh bien, cette musique, elle est signée Krzysztof Komeda. Krzysztof Komeda est un pianiste polonais qui a été très très proche de Roman Polanski depuis les tout premiers courts-métrages dans les années 50. Hein. Nettement moins connu du grand public aujourd'hui, hein, de 2 ans l'aîné de Polanski, il a ensuite composé les partitions originales de tous ses premiers longs-métrages. On peut citer notamment Un couteau dans l'eau, Cul-de-sac ou encore Le bal des vampires. Pour Rosemary's Baby, production américaine, Polanski fait venir son ami depuis la Pologne vers Hollywood, où le cinéaste était déjà installé, à l'époque il pouvait encore y être, ne voulant recourir au service d'aucun autre compositeur pour son nouveau film. Ce sera leur ultime collaboration artistique, puisque Krzysztof Komeda va décéder de manière prématurée, hein, à l'âge de 37 ans, en avril 1969. Donc 69, c'est une année funeste pour Polanski, puisque c'est aussi bien sûr l'année de l'assassinat de sa femme Sharon Tate, par les illuminés de la secte menée par Charles Manson. Cet assassinat aurait été une réaction au film Rosemary's Baby, dans lequel il est question de l'emprise d'une secte sataniste qui se referme inexorablement autour du couple, interprété par Mia Farrow et John Cassavetes. Ce couple, les Woodhouse, débarque fraîchement dans un bel appartement d'un immeuble cossu à New York, avec pour voisins des gens originaux, charmants, mais un peu bizarre, et puis peut-être un peu trop charmant finalement, un peu trop attentionné envers Rosemary, ayant une fâcheuse tendance à l'intrusion, lorsqu'ils apprennent surtout qu'elle va avoir un enfant. Son mari, Guy, est séduit par ces personnes et ne semble vraiment pas voir quel est le problème. La suite, je n'en dis pas plus, mais elle ne donne pas envie d'organiser des rencontres entre voisins et d'autres repas de quartier. Rosemary's Baby, film oppressant au climat claustrophobe et paranoïaque, des atouts imparables du cinéma de Polanski en général, est une magistrale et inconfortable montée en tension entre films de complot et fantastique sataniste. Cet univers convient parfaitement aux talents musicaux de Krzysztof Komeda, autant compositeur-interprète qu'arrangeur et orchestrateur, particulièrement à l'aise avec des formations instrumentales de taille réduite. Le second extrait qu'on vient d'écouter accompagne une scène onirique médiane dans le film, une évocation cauchemardesque des peurs et des intuitions de Rosemary qui sent l'étau se refermer sur elle et son bébé. Cette musique montre le talent du compositeur pour distiller un climat anxiogène sans recourir à des effets de masse, préférant plutôt les jeux sur la dynamique individuelle nappée d'ornements orchestraux. Ses choix sont peut-être hérités de son expérience dans le jazz, puisque, il faut le rappeler, hein, Komeda est au départ musicien de jazz. Son groupe, dans les années 50 et 60, est un laboratoire pour de jeunes talents de la scène jazz en Pologne et en Europe du Nord. Le trompettiste, Thomas Tanko, notamment, qui gagnera par la suite une notoriété internationale, en est issu. Cette musique est au diapason de nouvelles formes artistiques populaires à l'époque, hein, les nouvelles vagues européennes, dont Polanski est une figure importante. En Europe, le jazz se signale aussi par une émancipation hors des codes stricts de la musique afro-américaine, pour se permettre un peu plus de porosité avec l'héritage populaire et classique européen. Et cette européanité du jazz, elle s'entend très sensiblement dans la musique de Krzysztof Komeda. Mrs. Wild! Voilà, donc là, on vient d'entendre un troisième extrait de Rosemary's Baby, musique de Komeda et film de Polanski. Alors, c'est disponible très facilement en DVD, hein, le film. Pour la bande originale du film, alors, il y a une très belle couverture pour le vinyle, mais c'est plus difficile à attraper ça en support physique. Pour l'anecdote, l'adaptation du roman d'Ira Levin n'était pas une idée de Polanski au départ. Après le bal des vampires, il voulait faire un film sur le ski. C'est un sport dont il est totalement fan. Le roman lui a été présenté de manière complètement fortuite et ça l'a convaincu de réaliser une adaptation. Alors moi, il y a une pensée qui m'est venue en visionnant le film. C'est le nom de Roman Castevet. Parce que Roman Castevet, c'est le nom du voisin inquiétant de Rosemary et Guy Woodhouse. C'est le nom du personnage dans le livre comme dans le film. Donc c'est composé du prénom du cinéaste et suivi d'un nom aux allures quand même d'homophonie, hein, Castevet, avec son acteur principal, Cassavetes. Une ironie typiquement polanskienne.
L'émission se termine. Alors, est-ce que vous avez un petit conseil, un film ou un livre, comme ça?
Wow.
Pardon, okay. Vous n'avez rien.
Non, bah si, il faut évidemment aller voir Le Mandico. On devait en parler la dernière fois.
Mais c'était le conseil de la semaine dernière.
Non, mais non, la dernière fois, on devait en parler, on n'a pas eu le temps.
Ouais.
Voilà. Donc, oui. Et puis s'il reste une semaine encore, je crois qu'il reste encore une semaine, il y a un très beau film géorgien qui s'appelle Sous le film de Koutaïssi. Voilà, donc je voudrais donc remercier donc Anna La Technique, L'Utopia, Le Diagonal, Divergence, Artus Film pour leur soutien. Donc, et puis vous trois, Justine et Victor.
C'est très bien le film géorgien, comme je le conseille. C'est bien d'aller voir des films de pays proches de...
Voilà. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.